Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Vous êtes ici?
Bonsoir, c'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
C'est reparti, on remet le son ce soir au programme de votre magazine de l'actualité musicale inclusive de toute la scène française. Deux invités, Youn Sounna et Roger Kasparian. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir Laurent, bonsoir Marion.
Youn Sounna, 11e album Waking World, mais c'est la première fois que vous signez paroles et musique, donc un disque d'émancipation, on va y revenir. Les Beatles, Gainsbourg, Johnny et tous les autres, tous ont été shootés par Roger Kasparian, l'œil des 60s, pour une exposition de ses meilleurs clichés. Marion ?
Je vais dérouler le fil de l'actualité musicale, nationalité, racisme, tournée, télé et Céline Dion.
Et Céline Dion ?
Eh oui.
Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Avant de donner la parole à nos invités, ouverture en live avec Iliona qui était en concert Hyper Weekend Festival vendredi dernier au studio 105 de la Maison de la Radio. Pour celles et ceux qui ne pouvaient pas être là, eh bien le concert est disponible sur le site de France Inter. Vendredi dernier, elles étaient quatre nouvelles voix dans des registres totalement différents. November Ultra, Lala S, Indy et Iliona qui l'a joué 60s sur ce titre. Si tu m'aimes, demain. Youn Sounna et Roger Kasparian sont membres de Côté Club ce soir. Je ne pense pas que vous vous connaissez, hein. Je ne me trompe pas, vous ne vous êtes jamais rencontrés.
Non, mais On vient de se rencontrer.
Alors je vais faire les présentations. Youssouna, 20 ans de musique, 11 albums, un répertoire de reprises jazz, chansons françaises et même Metallica, on va y revenir. Pour son 11e album, elle en signe pour la première fois paroles et musique. On y trouve l'identité jazz, folk, avec même des accents pop. Youssouna, vous êtes née en Corée du Sud, à Séoul. La musique est une histoire de famille. Le père, chef de chœur, la mère est cantatrice. Cantatrice dans quel répertoire ?
Elle a commencé par le chant lyrique, après elle est devenue l'actrice de comédie musicale. Donc elle a chanté les comédies musicales.
Et quel type de comédie musicale ?
Il y avait des comédies musicales Broadway, et après des créations, la comédie musicale coréenne aussi.
Ouais. Comédie musicale que vous avez faite ici aussi en France, on va en parler. La légende dit que vous auriez commencé votre carrière musicale avec le Korean Symphony Orchestra à l'âge de 23 ans, sans jamais avoir étudié le chant.
Oui.
C'est vrai ou c'est faux ? C'est pas possible.
C'était un album, c'était un concert de gospel.
Ouais.
Donc j'avais déjà commencé à chanter, pas devant mes parents, parce que comme ils sont musiciens professionnels, j'ai toujours eu peur de chanter devant eux. Et voilà, à l'occasion, ils m'ont vu chanter, donc ils étaient ravis.
Et c'est comme ça que ça a commencé. À vos côtés donc, Roger Kasparian, photographe qui a shooté toute la génération des 60s en France, de Vartan à Hugo Frey, en passant par Gainsbourg, mais aussi tous les anglo-saxons qui venaient se produire en France, les Beatles, les Rolling Stones, j'en passe, tout sauf Dylan, qui vous a échappé.
Ben oui, je sais pas pourquoi, il a dû se cacher quelque part, parce qu'en général...
Vous les aviez tous
sur la brèche et je loupais personne. Mais bon.
La photo, c'est aussi le passage obligé hein, dans une carrière de chanteuse. C'est un exercice que vous aimez bien, Youssouna ?
Non, en fait, j'ai vraiment du mal être devant la caméra. Donc toutes les pochettes jusqu'à maintenant de mes albums sont faites par mon frère qui est aussi photographe.
Ah, donc c'est la seule façon pour vous d'être photographié.
Voilà, donc j'ai beaucoup de trac devant n'importe quelle sorte de caméra.
Youssouna, on va rentrer tout de suite dans cet 11e album avec ce titre « Don't get me wrong ». Un mot sur cette chanson parce que pour la première fois vous en avez signé les paroles et la musique. À quel moment elle arrive cette chanson ?
En fait, pendant que j'étais en Corée, pendant le
confinement,
oui. Et tout ce que les infos que je pouvais avoir, c'était sur la télé ou sur Internet. Et je pensais qu'avec cette pandémie, le monde allait changer, mais pas vraiment. Donc il y a toujours des mensonges et des tristesses et la guerre. Donc voilà, je voulais juste dire en effet, par l'amour. Donc voilà.
Whenever the truth is revealed, you don't change your mind. Such a shame. Whoa. I know the rainbow's not real, but you can make real love songs with it. And you believe hatred makes good melody. Don't get me wrong, but you're so wrong. The way you see the world is wrong. Never forget we are made from love, love. Don't get me wrong. Don't a shame. Whoa, whoa. You would say misconception,
But nothing can cover up lies, and you believe false words have more power. Don't get me wrong, but you're so wrong. The way you see the world is wrong. The world has no chance with those who lie and lie.
Get Me Wrong, extrait de Waking World, votre nouvel album, Yusunna, 11e album, donc avec cette particularité, vous en signez pour la première fois parole et musique. Après 20 ans de musique, ce n'était pas envisageable auparavant?
Je me considérais toujours une chanteuse, pas une compositrice, même si j'avais mis mes compositions personnelles dans mes précédents albums. Mais voilà, c'était la première fois et je pense que c'est... La crise sanitaire m'a poussée à le faire, vraiment, voilà.
Qu'est-ce qui vous retenait véritablement? C'est-à-dire un manque de confiance en soi? C'est pas possible à ce niveau-là, quand même.
Je suis quelqu'un qui n'a pas de confiance du tout en soi. Mais c'est... Ouais, comme j'étais toute seule, loin du tout, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire. Donc, ouais.
Vous vous souvenez quand les premiers textes sont arrivés, de quoi ils parlaient justement pendant ce confinement en Corée? Les premières chansons sont arrivées pour vous?
C'était I'm Yours. En fait, je me sentais beaucoup plus proche à la nature que des êtres humains, en fait. Donc, je voulais aller dehors et respirer, de vivre dans la nature, avec la nature.
La musique est arrivée au départ presque par hasard, pas vraiment parce que vous étiez d'une famille de musiciens, mais presque par hasard, puisque en 89, vous avez quitté la Corée, vous arrivez à Paris et vous gagnez le premier prix d'un concours de chansons françaises avec un titre de Nicole Rieu. Vous vous souvenez de Nicole Rieu, Roger Kasparian?
Parce que je l'ai photographiée.
Ben oui! Comme vous avez photographié tout le monde à cette époque-là, ouais.
À peu près, ouais.
À peu près, ouais. Nicole Rieu qui a un peu disparu.
Je traînais dans ce milieu-là et bon, je savais faire des photos, donc j'ai appuyé sur le bouton.
Pourquoi vous aviez choisi un titre de Nicole Rieu? Parce qu'en 89, plus personne ne parlait véritablement d'elle aujourd'hui.
J'aimais beaucoup les chansons françaises. En fait, je connaissais une nonne belge qui avait beaucoup de cassettes des chansons françaises. Donc, elle m'a fait découvrir. Et cette voix, la voix de Nicole Rieu m'a vraiment parlé parce qu'elle a une voix soprane, comme un peu la mienne.
Très pure.
Ouais, très pure. Et en fait, je l'ai rencontrée quand je suis venue en France parce qu'elle a lu un interview que j'ai fait. J'ai parlé d'elle et un jour, elle est venue me voir en concert, j'étais en larmes. Oui.
Vous ne pensiez pas faire véritablement de musique? Vous aviez quel autre type de projet, Yusunna? Quelles études avez-vous faites?
J'ai fait la littérature à l'université et après j'ai travaillé dans une entreprise de la mode.
Et à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est pas possible?
Non, en fait, j'arrivais pas à bien le faire, donc voilà.
Vous avez eu au départ des rôles dans des comédies musicales. Je me suis demandé comment le jazz est arrivé dans ce parcours, puisqu'il est aujourd'hui devenu votre identité.
C'est venu par hasard. J'ai rencontré un ami musicien un soir en Corée et je lui ai demandé, j'ai envie de chanter, en fait, quel type de musique je peux apprendre. En fait, il m'a dit, fais le jazz. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est le jazz? Il m'a dit, c'est l'origine de pop music. Donc, si tu apprends le jazz, tu pourras tout chanter.
Vous n'en écoutiez jamais avant?
Non, pas avant.
Donc... Ni Ella Fitzgerald, ni les grandes chanteuses jazz, non?
Je pense que j'ai dû écouter à la radio sans savoir qui elle était. Et donc, je suis arrivée en France quand j'avais 26 ans, donc j'ai commencé à partir de zéro.
Vous n'avez pas continué en Corée la chanson, la musique? Je sais que vous produisez régulièrement depuis, mais il n'était pas possible pour vous d'envisager de travailler la musique en Corée. Il fallait venir en France.
J'aimais beaucoup les chansons françaises, donc on m'avait dit qu'il y a une des premières écoles de jazz en Europe était à Paris, donc je voulais faire les deux. C'est pour ça que j'ai décidé de venir en France.
Depuis, j'imagine que vos parents sont convaincus par vos talents.
Ils me soutiennent, oui, énormément.
Alors, je sais que vous vous produisez en Corée, enfin dans le monde entier, bien évidemment, à Paris aussi, dans France, on va revenir sur les dates de tournée tout à l'heure. Et moi, j'aimerais savoir comment se comporte le public coréen en concert avec vous, par exemple.
Ils sont très latins.
C'est-à-dire, ils sont déchaînés.
Oui, donc c'est pour ça il y a des artistes étrangers qui viennent en Corée, qui sont vraiment surpris parce que... Je pense que peut-être on est assez réservé, mais quand ils les entendent chanter avec eux, et presque, ouais, c'est surprenant. Ouais.
Est-ce que vous avez un répertoire différent selon les pays, par exemple en France et en Corée, même s'il y a une tonalité de jazz dans tous les cas?
Non, c'est à peu près la même chose. Et, parce que je chante des fois les chansons traditionnelles coréennes, ici ou ailleurs, comme en Corée, et les chansons françaises aussi, oui.
Pour cet 11e album qui fête quand même 20 ans de musique, donc c'est un album Parole et Musique Yusunna, mais votre parcours est fait de reprises, de Léo Ferré à Metallica, de Tom Waits à John Coltrane, on voit que le spectre est assez large, plébiscité en France, notamment avec cet album Same Girl en 2010, et notamment ce titre en toute fin d'album que j'adore, la chanson d'Hélène. Telle chanson chantée par Romy Schneider, hein, c'était dans la bande originale du film de Claude Sauté. J'imagine qu'on étudie l'original, qu'on va se l'approprier, notamment ici avec une sorte de ralentissement du tempo. Comment vous choisissez justement ce répertoire de reprises, Yusunna?
Ouais, j'ai des amis qui me proposent des fois. Après, il y a des morceaux que je choisis par hasard en marchant dans la rue, en étant dans des magasins et la musique qui passe au lieu et qui me rappelle les souvenirs. Et donc, il n'y a pas vraiment de règle. Et en fait, souvent, je choisis des morceaux que j'entends en fait au moment d'enregistrer un album. Ouais, juste avant, oui.
Donc vous aviez entendu la fragilité de la voix de Romy Schneider, qui était une actrice et pas une chanteuse au départ.
J'ai vu le film, ouais, et j'étais tellement, comment dire, c'était
bouleversant.
C'était bouleversant, et après quand je l'ai vue chanter, et ouais, c'était tellement beau, le temps s'arrêtait, donc j'ai envoyé l'image au guitariste suédois qui a joué, guitariste qui s'appelle Ulf Akenius, qui était le dernier guitariste Oscar Peterson. Il m'a envoyé un mot, c'est énorme. Donc, ouais.
On va écouter un autre aspect de votre répertoire, ça c'était sur l'album Voyage.
Edna Million in a drop dead suit, Dutch pink on a downtown train, $2 pistol but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain, 60 men in the dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup, 2 pairs of pants and I'm all half fist. I'm full of bourbon, I can't stand up. Hey little bird, fly away home, your house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, your house is on fire, children are alone. She flipped book about Ewan Morgan's head, and I'm stepping on the devil's tail, across the stripes of a full moon's head.
Alors, ce qui est remarquable, outre la qualité musicale, c'est aussi la qualité de vos accents, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Je vous ai même entendu une fois en hébreu. Est-ce que vous avez des profs pour chaque langue, pour pouvoir trouver justement une intonation sans accent, Yosuna?
Vous trouvez que...
Ah ouais, ouais, franchement, il y a une qualité...
Je pense, bon, j'ai encore un long chemin à faire, mais je pense que j'ai pu développer mes oreilles un peu musicales grâce à mes parents, parce que j'ai, comme mon père est chef de chœur, j'étais très, comment dire, sensible à la voix depuis toute petite. Ouais, je pense que c'est ça.
Vous trouvez qu'elle a changé votre voix ?
Oui, avec l'âge, oui. Ça descend plus bas maintenant. Ouais. Et je suis très contente
de descendre,
ouais,
plus bas,
d'avoir la voix grave un peu.
Donc c'est le premier album dont vous signez paroles et musique de façon entière. Est-ce que vous appréhendez justement sa réception, parce que ça va changer le regard que le public, notamment en France, a de vous, Yosuna?
Justement, j'ai un peu peur. Okay.
Je pense que vous avez toujours peur.
Oui, j'ai peur. Okay. Ouais, comment cet album va être accueilli? Mais en fait, pendant que j'étais en Corée, pendant le confinement, j'ai voulu préparer un cadeau qui est fait tout par moi-même, même si c'est pas très beau, même si c'est pas parfait. Un jour, je les vois et voilà, je voulais leur offrir ce cadeau. J'espère que ça va leur plaire.
Ah, je pense que ça va leur plaire. Par exemple, demain, Mathilde Serrel va parler de votre album dans sa chronique musicale de la matinale, Le Mur du Son à 7h20. On en parle ce soir. Donc, manifestement, quelque chose se met en place pour vous, Yosuna. Vous restez avec nous. On va parler de Gainsbourg avec Roger Kasparian dans quelques instants. Gainsbourg, période Gainsbar, repris tout de suite par Alex Baupin, Sorry Angel, sur France Inter.
Sorry.
C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, un beau jour, décidé que tu t'en allais. Le conte avait commencé à rebours. Était-ce vertige, des veines, qui sait? Un voyage, un seul aller, au long cours, d'où l'on ne revient jamais. Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais. C'était foutu d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regrets. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges, pour toujours. Pour toujours et à jamais. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges, pour toujours. Pour toujours et à jamais.
Alex Baupin, dans cette reprise de Sorry Angel, est-ce que vous avez déjà repris des chansons de Gainsbourg, vous qui êtes une amoureuse de la chanson française Yusunna?
J'ai déjà chanté la javanaise en Corée, oui.
Mais pas en France.
Pas encore.
Pas encore.
Il y a encore des années devant vous. Encore un mot sur Alex Baupin, parce qu'il y a un documentaire formidable qui lui est consacré, signé Valentine Duteuil. C'est sur YouTube. On vous met le lien sur la page de Côté Club.
Côté Club. Le fil.
Alors, je vous ai déjà parlé ici de Gims et de ses déclarations. Il y avait eu sa sortie sur Noël et les anniversaires, il y a eu ses excuses. Et alors que le rappeur vient de demander à nouveau la nationalité française, tout le monde n'a pas l'air convaincu de sa bonne foi.
Moi, j'assume le fait que des instructions sont très clairement données pour refuser la nationalité française, qu'on soit connu ou pas connu, lorsqu'on est tenant d'un islam rigoriste.
Ça veut dire non, vous lui dites non à Gims.
Ne pas souhaiter bonne année parce que ce serait pas conforme à ce qu'auraient fait les frères de tel ou tel personnage, aussi sacré soit-il, c'est pas une bonne preuve d'assimilation à la nationalité française.
Ça, c'était Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, mardi sur France Inter. Il faut savoir que Gims est né au Congo, qu'il a vécu dans l'Hexagone presque toute sa vie et que la nationalité française lui a déjà été refusée une première fois en 2017. Affaire à suivre, donc.
La discrimination, je l'ai plus connue adulte en me mariant avec ma femme à rechercher un appartement, en me convertissant à l'islam et que la notice du propriétaire d'un des agences, pas de chien, pas de noir, pas d'arabe. Tu te dis, mais c'est pas possible, on en est encore là, c'est incroyable.
La voix d'Akhenaton dans le podcast La Face Cachée, animée par le batteur Manu Katché, après avoir publié une tribune la semaine dernière contre la politique gouvernementale et le pass sanitaire, le rappeur marseillais repart à l'attaque pour dénoncer le racisme qu'il a subi avec sa famille après sa conversion à l'islam. Des thèmes qui seront certainement évoqués à nouveau quand Ayam remontera sur scène au mois d'avril.
Voilà, c'est fini, car c'est fini.
Et oui, c'est fini. Lui ne repartira pas sur les routes de France avec son Holo Tour, une tournée commencée il y a 4 ans et dont certains concerts ont été de trop nombreuses fois reportés à cause des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales successives. Oui, un concert, ça ne se rallume pas comme ça. Ainsi donc, pas de show de Jean-Louis Aubert à Nancy, Rouen, Caen, Bordeaux et à l'Accor Arena de Paris. Les billets seront remboursables dès le 28 janvier.
Le fil.
Star à domicile, chantez chez vous, pour vous et par surprise.
Alors si vous ne pouvez pas aller au concert, votre star préférée, elle peut venir chez vous. Imaginez donc Laurent Bouba dans votre salon. Star à domicile, rappelez-vous cette émission animée par Flavie Flamand dans les années 2000 sur TF1 pour les 20 ans du show. Une spéciale sera diffusée le 18 février avec des archives qui mettent à l'honneur les stars de l'époque, Laurie, Patrick Fiori, Hélène Ségara, et des surprises avec les voix d'aujourd'hui, comme celle d'Amel Bent, de Soprano, de Julien Doré, ou encore Angèle, encore toute émue de son passage dans Chansons secrètes.
Nous, on est les blondes and blondes and blondes.
Je le sais, sa façon d'être moi, parfois vous déplaît.
Eux, les standards du patrimoine, ils les passent au filtre de leur suéditude complètement déjantée. Eux, c'est le trio Blonde, Blonde and Blonde qui se posera chaque mardi du 1er février au 29 mars à l'Européen à Paris. French Touch, Variété, Java Musique. Impossible de résister à Ingmar Dassin et à Joe Bergman.
Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment seul peut décider qu'on se parle d'amour
ou d'amitié.
Ah, c'est magnifique. Des hommages, des créations, il vient en avoir beaucoup.
beaucoup au Printemps de Bourges cette année, avec entre autres D'amour et d'amitié. On vient d'entendre Laurent Goumard, mais il y aura également Pomme et Safia Nolin qui vont dédier à la diva canadienne un show. Il y aura aussi Closing Night, soit les adieux de Brigitte Fontaine à la scène, un départ qui va être mis en scène justement par Gustave Kerven et Benoît Delépine. Bye bye Brigitte et tout ça Bourges donc entre le 19 et le 24 avril. Games, Akhenaton, Jean-Louis Aubert, Star à domicile, le Printemps de Bourges. Vous avez vu, il y a une actualité musicale chargée, embrouillée comme une pelote de laine. Qu'est-ce que ça vous évoque, Roger Casparian, toute cette actualité?
Ben, c'est les jeunes de maintenant.
Vous qui avez été jeune dans les années 60. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, dans toute cette information musicale, Youssouna?
À Céline Dion, par exemple. Vous avez déjà repris du Céline Dion?
J'adore sa voix, mais j'ai jamais repris ses chansons. Elle a une technique incroyable. Oui.
Mais vous aussi, vous avez une technique incroyable. C'est quand même fou.
Salut les copains, ici c'est Paul McCartney.
Salut les copains, ici John.
John, quand pensez-vous retourner en France?
Côté. Nous ne savons pas
club
pour le moment.
George, vous préférez les filles françaises ou les filles américaines?
Tout à la fille, pour moi.
Ringo, est-ce que vous voudriez revenir en France?
Ah, oui, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, oui, oui.
Sur France Inter.
Quatre garçons, trois à la guitare, un à la batterie, petit costume sombre, coupe anglaise, à eux de jouer.
Salut les copains, c'est Laurent et Marion. Ça c'était les Beatles époque Europe 1, juste avant ou juste après d'ailleurs leur passage à l'Olympia en 1964. L'Olympia 1964, j'imagine que vous étiez là, Roger Casparian.
J'étais même à leur arrivée.
Au Bourget.
Au Bourget, qui venait auréolé d'une espèce d'aura, mais bon, c'était pas tellement... en vogue, mais moi je me suis bien aperçu que les Beatles c'était génial, et donc il n'y a pas que moi, parce que finalement toutes les maisons de disques se sont mis à chercher des groupes. Il en est sorti les Rolling Stones, il en est sorti les Who, il en est sorti toute la pop anglaise
que vous avez toutes photographiées en effet. Ouais.
Ah ben oui, là moi j'avais bien compris qu'il fallait pas rater cette histoire-là.
C'est pour ça que vous alliez au Bourget, parce que c'était là que tous les chanteurs venaient.
Il fallait accrocher les wagons au moment où ils arrivaient. Donc comme j'étais là à l'aéroport avec mon appareil photo, etc., ils pensaient que je faisais partie du groupe. Et je les suivais. Par exemple, pour les Beatles, on est allé à l'hôtel George V. Je me suis dit, oh, j'y vais, ils vont pas me laisser rentrer, etc. Je suis arrivé avec mon appareil photo, ils m'ont dit par ici, par là, par ici.
Oui, ils pensaient que vous étiez le cinquième garçon, quoi. Parcours de photographe depuis les années 60, vous êtes vous-même fils de photographe, vous allez avoir accès à tout le monde à cette époque, toute la jeune génération de chanteurs français, anglo-saxons, que vous allez shooter régulièrement, des milliers de photos qui vraiment documentent toute cette période. Le premier ou la première, c'était qui que vous avez pu photographier, vous vous souvenez?
À vrai dire, je m'en souviens plus.
Oui, tellement que... ça faisait partie de votre quotidien.
Oui, j'ai commencé avec des gens qui étaient absolument pas connus. Tous, ils commençaient. En fait, j'ai fait la naissance de tous ceux qui se connaissent maintenant.
C'est pour ça que vous pouviez avoir accès à eux de façon aussi, aussi naturelle, en fait.
J'avais le même âge qu'eux. Ils avaient besoin de photos. Et moi, j'avais besoin d'un sujet. Parce que photographe, c'est bien, mais photographier les courants d'air.
Non, vous auriez pu photographier autre chose. Il y avait une autre scène. Il y avait Tino Rossi et les autres.
Mais j'ai fait Tino Rossi. Ah ben... Qu'est-ce que vous croyez? Luis Mariano, tout ça. Moi, j'ai commencé avec ces gens-là.
Oui, mais très vite, ça a été vers la pop française et anglaise.
Bah, c'était pas le même âge. C'était pas la même, il y avait pas l'ambiance. Il y avait pas, je me comprenais beaucoup mieux avec les gens de mon âge.
Imaginez.
Automatique. Et donc, j'ai fait aussi beaucoup de jazzman. D'ailleurs, pour le jazz club de l'hôtel Méridien.
Où sont exposées vos photographies actuellement?
On a exposé ces photos-là qui sont pratiquement pas connues. Moi, j'ai fait Coltrane, j'ai fait Monk, j'ai fait Duke Ellington.
C'était différent, les sessions de photos avec des jazzman qu'avec les gens de la pop?
Ben, en fait, ils m'ont même pas vu.
Ouais, c'était ça votre secret, en fait. Vous étiez là. Vous preniez les photos sans qu'on vous remarque véritablement?
J'essayais qu'on me demande pas trop pourquoi je faisais ça. Et puis, bon, ils avaient l'habitude d'être photographiés, donc ça passait. Bon, vous commencez de loin, vous approchez un peu plus. Si vous voyez que ça marche, vous faites un gros plan, etc. Et donc, c'est l'ABC du métier. Et j'ai photographié des gens totalement que j'aurais jamais dû rencontrer, en fait. Parce qu'ils étaient déjà préétablis, ils avaient déjà une personnalité. Gainsbourg avait déjà sa personnalité. Il était connu comme chanteur rive gauche. À l'époque où moi je l'ai photographié, il se demandait comment il allait faire pour raccorder avec les jeunes. Il m'a dit, Coco, ils veulent de la soupe, je vais leur en faire. Je me suis dit, je ne sais pas s'il va y arriver. Et effectivement, il a mis 10 ans. Mais il y est arrivé, il a rempli son programme, parce qu'il m'avait rajouté « et j'aurai ma Rolls ». Je dis « ah bon ?» Et il a eu sa Rolls, mais c'est pas lui qui conduisait. Mais bon.
Yusuna, vous avez devant vous un des livres, justement, de Roger Casparian. Est-ce qu'il y a quelques photos que vous avez regardées qui vous ont marqué? Oui, je vous vois à la page, ouais.
En fait, c'est des artistes, mais j'ai jamais vu ces photos. En fait, c'est marqué sur la
couverture
« archive inédite d'un photographe des 60s ». J'aimerais bien acheter ce livre, monsieur.
C'est terminé.
Il n'y en a plus.
C'est vrai.
Ça y est, on peut le trouver peut-être.
Peut-être qu'ils font une réédition.
Peut-être.
C'est autre chose.
Exactement. Alors, dans la famille des photographes des 60s, on connaît bien sûr Jean-Marie Perrier. Est-ce que vous vous êtes croisés à l'époque? Est-ce que vous êtes connus parce que vous avez deux styles différents? Jean-Marie Perrier, il travaillait pour Salut les copains, donc il pouvait faire des super productions, c'est-à-dire qu'il inventait des décors, il inventait des costumes, il mettait en scène les chanteurs, les chanteuses, il était lui-même avec Françoise Hardy, donc il avait un lien très privilégié. Est-ce que vous vous êtes rencontrés à ce moment-là, Roger Casparian?
Bah, pas particulièrement. Moi, j'évitais un peu de me confronter avec des photographes qui avaient derrière eux un journal qui les soutenait, etc. Bon, moi, je me contentais de prendre les gens
sur le vif,
dans leur quotidien. C'était ça. Moi, en fait, mon reportage, c'était 24 heures avec. Comment ils mangent, comment ils s'habillent. Parce que moi, j'avais pas, comme vous dites, la possibilité de mettre en scène. Et puis moi, je suis pas tellement baroque. Jean-Marie Perrier est beaucoup plus baroque. Mais Jean-Marie Perrier, je l'adore maintenant. À l'époque, j'essayais de l'éviter. Mais il m'a acheté une photo de Françoise Hardy. C'est quand même... ça m'avait étonné. Parce que lui, il était très proche de Françoise Hardy. Mais en fait, il savait que j'existais parce que quand je téléphonais à Françoise Hardy pour faire des photos...
Direct, en direct, ouais.
En direct, ça passait quand même quand Jean-Marie disait « oui, ah oui, celui-là, tu peux y aller, il est pas trop mauvais, etc. » C'est pas n'importe qui pouvait photographier Françoise Hardy.
À qui étaient destinées vos photos à l'époque? Vous n'étiez pas affilié à un journal, mais vous aviez quand même des destinataires pour vos photos, Roger Casparian. Ben,
je montais mes reportages, et puis je cherchais qui ça pouvait intéresser. J'étais pigiste. Pigiste, ça veut dire vous êtes payé que si la photo est publiée. Donc j'avais intérêt à faire des photos qui ressemblent pas trop à ce qui se promenait dans la photographie. J'avais intérêt à trouver le sujet qui pouvait intéresser les journaux avant qu'eux-mêmes s'y intéressent, etc., etc. Donc ça m'a formé en tant que pigiste. J'avais certaines obligations et je m'en suis tiré.
Il y avait eu des gros succès. Il y a une photo qui outrepasse le milieu musical, qui est une photo d'Alain Delon et Romy Schneider.
Moi, ça, c'est pas du tout une construction. C'était tout à fait le hasard. Je me trouvais à l'hôpital de Neuilly, l'hôpital américain, avec mon appareil en bandoulière, et puis je me souviens même plus pourquoi. Et il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit « c'est vous le photographe de François ?» Je dis ni oui ni non, je laisse le vague. Il me dit, bon, bah, suivez-moi. Il m'amène devant une chambre, il ouvre la porte. Et qu'est-ce que je vois? Il y avait Alain Delon qui était assis sur le lit de Romy Schneider, qui avait fait une tentative de suicide. Je n'étais absolument pas au courant. Alors j'ai eu quand même un instant d'hésitation en me disant, là, peut-être que j'ai été trop loin. Mais Alain Delon me dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu qu'il y avait une boîte de chocolat sur une table de chevet. Bah, je lui ai donné du chocolat.
Et vous avez fait une photo qui a cartonné, hein, qui a été prise et absolument donc, partout. Vous l'avez vendu 50 francs à l'époque, c'était rien quand même. Mais cette photo a fait le tour de France parce qu'elle a été reprise dans de nombreux magazines.
Et alors c'est ça, c'est qu'après les journaux comme Il Tempo en Italie, Stern en Allemagne, etc., ont vu la photo, ont demandé qui est-ce qui a fait et me téléphonaient à moi pour me demander si je voulais vendre la photo. Et donc, j'ai augmenté mon prix au fur et à mesure. Et c'est la photo que j'ai vendue dans toute l'Europe.
Juste une question, Roger Casparian, sur les rapports que vous aviez avec les chanteurs et les chanteuses auxquels vous aviez accès très facilement. Est-ce que vous parliez avec eux ou juste vous étiez là pour la photographie? Il y avait peu d'échanges, en fait.
Je parlais pas trop parce que à partir du moment où vous commencez à faire copain, vous pouvez plus faire du travail. Vous pouvez plus dire non, mets-toi là, fais ça, bouge pas, regarde, non là, ça va pas, etc. Je gardais moi position de photographe et eux ils gardaient leur position de chanteur. Bon, mais comme je les ai fait au début, je les connaissais très bien. Claude François, première fois où il a fait son un disque, ça a pas marché, il est retourné à Monaco, il est revenu la deuxième fois il avait fait belle. J'étais dans la chambre au moment où s'est sorti ce truc là il me dit tu crois que ça va marcher belle. J'ai dit oui, en principe ça devrait aller.
Ça a été un carton. Oui. Claude François qui est devenu photographe de charme par la suite, puisqu'il avait même créé un magazine pour photographier des jeunes mannequins dénudés.
Là ça a commencé à me dépasser. Là,
oui, je peux imaginer.
Je l'ai laissé.
Surtout que vous, aucune de vos photos, j'ai regardé, n'est sexy. C'est-à-dire que vous n'avez jamais demandé de pose sexy, par exemple, aux chanteuses à l'époque.
Mais d'abord, ils étaient beaucoup plus pudiques. Ça a changé. Pour Sylvie Vartan, elle était pas question qu'elles se mettent tralala. Non, ils étaient beaucoup plus pudiques. C'était pas la même époque. Moi, je les ai connus, ils étaient tous gentils, innocents.
Même Claude François était gentil.
Très gentil, Claude François.
Ce sera le scoop de la soirée.
Je vous dis, il me dit à moi, tu crois que ça va marcher? Il m'avait dit, tiens, moi, je vais acheter mes chemises au marché aux puces, tu devrais aller aussi, etc. Mais bon, après, il ne mettait une chemise que une fois qu'elle était le premier lavage, sinon il ne mettait plus.
Roger Casparian, une autre question. Tout à l'heure, vous disiez que vous évitiez, par exemple, Jean-Marie Perrier. Pas par rapport à lui, mais par rapport à son statut, puisqu'il était affilié à un magazine. Moi, je me suis demandé, vous n'étiez pas du Sérail. Votre père était photographe en banlieue. Est-ce que vous aviez un complexe de classe, alors que vous-même, vous aviez vraiment un parcours de super photographe? Vous avez une culture cinématographique, vous avez une culture picturale. Est-ce que vous vous sentiez complexé par rapport au milieu de...
Oh, totalement. Moi, j'étais timide, complexé. Je pensais que tout le monde savait plein de choses et que moi, je savais rien. Mais je me réfugiais dans le fait que je savais faire des photos. Parce que depuis ma naissance, j'étais là-dedans. Mais c'était mon... L'appareil photo, si vous voulez, c'était mon cache-sexe. J'étais derrière, bien tranquille, etc. Mais j'étais pas, comme vous dites, du sérail. J'étais pas de ça. Donc, je regardais tout ça avec des yeux ronds, en essayant de pas faire de bêtises. D'ailleurs, Johnny faisait pareil. Johnny, il dit oui, il disait oui à tout. Pourquoi il disait oui à tout? Parce qu'il savait pas très bien, il voulait pas faire une bêtise. Et moi, c'était un peu pareil, je regardais, et donc, ce qui m'intéressait, c'était de prouver que j'étais quelque chose par rapport aux photos que je faisais. En fait, je faisais aussi les photos, je les faisais pour moi. Mais vous voyez, ça m'a conduit à exposer
à
la première exposition à Londres. Là, j'ai été en Uruguay. Ça m'a fait voyager, alors que moi, j'avais pas les moyens de voyager. J'étais freelance. Donc, tout se faisait à compte d'auteur. Il fallait que je trouve des biais qui se vendent pour pouvoir en vivre.
Alors, surtout que les photos sont vraiment remarquables. Vous avez des photos en backstage avec du jamais vu. On voit par exemple les musiciens qui accordent leur guitare. C'est des choses qu'on voit pas dans les photos. Vous avez aussi des photos en concert. Alors, je ne sais pas comment vous faisiez avec des noirs et blancs absolument somptueux. Vous avez des portraits et surtout les portraits sont très intéressants. C'est des portraits posés. Notamment, il y a des portraits de Johnny Hallyday avec les yeux dans le vague. Super beau. Et une technique particulière, c'est le contre-jour.
Moi, mon père était portraitiste. Mon père avait travaillé pour des grandes maisons de photos dont je me souviens plus le nom, évidemment.
Donc vous aviez cette culture-là de la photographie?
J'ai la culture du portrait, oui. Ouais. Mon père savait faire des portraits et lui, il faisait deux prises de vue. Moi, j'en faisais 20, 30. Lui, non. Avec deux prises de vue, il arrivait à faire des portraits qui vraiment se tiennent. Mais bon.
Je voudrais vous faire écouter un son. J'aurais pu en choisir des centaines, mais celui-là est très particulier parce qu'il relie deux chanteurs, en fait.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies.
Roger Casparian, est-ce que vous savez pourquoi j'ai choisi cette chanson chantée par Johnny Hallyday?
En tout cas, je vous en remercie. J'aime bien cette chanson. C'est Aznavour qui était... Johnny a habité pendant un an et plus chez Aznavour. Et à cette époque-là, moi, je me suis retrouvé dans une rédaction en montrant d'autres photos et j'entends parler. Il faudrait peut-être envoyer un photographe. Il y a Aznavour et Hallyday. Je sais pas comment je me suis débrouillé. C'est moi qui me suis retrouvé là-bas.
Si, moi, je sais, parce que vous vouliez rencontrer Aznavour.
Ben, bien sûr.
Vous étiez de la même origine, arménienne, comme lui. Donc c'était important pour vous, j'imagine, de rencontrer Aznavour.
Si vous voulez, c'était un phare pour nous, parce que bon, il était petit comme nous, il était, enfin pour nous, c'était vraiment un phare, Aznavour. Et d'ailleurs, j'ai fait ces photos-là en pensant rencontrer Aznavour, mais en cours de route, je me suis retrouvé à faire des photos des gens que je voyais et qui montaient, quoi. Et donc, je me suis retrouvé en face d'Aznavour, en face de Johnny. Deux idoles pour moi, quand même. Moins Johnny, parce que je l'avais vu naître. Aznavour, plus, parce que c'était un monsieur. Parce qu'on se reconnaissait dans ses textes. Nous, les petits immigrés de l'époque, en fait, il disait ce qu'on voulait dire 50 milliards de fois mieux que nous, donc on se connaissait dans ces textes-là. Mais bon, la photo, c'est un truc extraordinaire. La preuve, c'est que mes propres enfants ont repris le studio de leur grand-père. Ils ont remis en route tout ça. Macha, ma fille, elle s'occupe de ça. Elle fait des expositions, etc. Donc, plus ou moins, tout le monde est plus ou moins photographe. Donc.
Chez vous.
Mais en fait, la vocation, c'est mon père qui l'a eue, pas moi. Moi, j'ai suivi le chemin.
Une dernière question, parce que vous avez fait donc des reportages pour des magazines, mais vous avez signé aussi des pochettes de disques. Quelle est la pochette de disque dont vous êtes le plus fier, Roger Casparian?
Ben, il y a une photo qui est un peu historique, c'est Hugo Frey. Hugo Frey avec son renard, c'était...
Un vrai renard, hein, son petit renard, il vivait avec un renard,
oui, oui.
Dans son appartement tout blanc.
En plus, oui. Ah bah vous avez connu cet appartement?
Non, je l'ai pas connu, mais j'ai vu des photos de cet appartement et c'était très bizarre pour l'époque. Il n'y avait pas d'appartement tout blanc. Tout le monde mettait du papier peint sur les murs, les appartements
oui,
blancs.
C'était pas vraiment. Ça commençait à faire tout blanc. C'était le papier peint, ouais. Et Hugo Frey, c'était au Moulin de la Galette. Dehors, il y avait une porte en bois. Lui, il avait une veste en daim. Qui avait la couleur de la porte. Le renard était plus ou moins roux. Je me suis dit, c'est la photo qu'il faut faire. Et donc, j'ai fait une photo qui a fait une couverture de disque d'un 33 tours, je crois que c'était du tour de chant de l'Olympia de l'époque. Et Hugo Frey, il m'a dit, écoute, cette photo-là, il me l'a dit plusieurs fois, cette photo-là, elle a été juste au moment où le président Kennedy a été assassiné. Alors, et il me l'a confirmé plusieurs fois.
C'était donc une photo historique.
Ben, c'est devenu vraiment historique. Mais bon, au départ, je savais pas que ça allait aussi loin. Mais ça fait une très jolie photo du fait que toute la couleur s'harmonisait.
Dans les morts dorés.
Voilà.
Une dernière question, elle est pour Youssouna, qui est devenue photographe, manifestement, pour son dernier album. Elle a toujours été photographiée par son frère, c'est ce qu'elle disait au début d'émission. Mais non, vous avez évacué le frère, et cette fois-ci, comme vous signez les paroles et les musiques, vous signez aussi la photo. C'est une photo, un autoportrait, on vous voit d'ailleurs à l'intérieur avec le clic depuis...
Oui.
Ça y est, vous êtes photographe maintenant ?
Pour une fois, je pouvais être beaucoup plus naturelle.
Parce que vous êtes face à vous-même, c'est pour ça.
Exactement.
Vous avez aimé faire cette séance toute seule?
Ouais, je peux dire parce que il y avait personne d'autre. Donc, ouais.
Le mot de la fin va être signé Léonie Pernet. Il pleut des hommes, une prévision climatique pour son dernier album, Le Cirque des Consolations. Voilà, côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Youssouna, merci à vous.
Merci beaucoup.
Waking World, ça sortira vendredi prochain. Vous serez en tournée demain à Montpellier, le 28 à Martigues, le 29 à Calais, le 1er février à Chevilly, la rue, le 2 à Metz, le 3 à Huy, c'est en Belgique. Plein d'autres dates, avec le 11 février, un showcase Fnac des Ternes à Paris, puis le 31 mars, Boulogne, à la scène musicale. Merci Roger Kasparian, merci à vous.
Mais c'est moi qui vous remercie.
L'exposition photo musique Révolution, les 60s à Paris, c'est jusqu'au 2 mars au Jazz Club Étoile, Paris 17. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain.
Merci, Côté Club.
Ils veulent dompter le boy, que maman a poussé le boy.
Ce sera le retour de Benjamin Epps dans Côté Club. Il sera notre invité avec à ses côtés Skia et 404 Billy, une soirée rap. Marion ?
Eh oui, j'en profiterai pour faire un zoom sur la scène rap, mais au féminin.
Côté Club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. À la réalisation, Stéphane Le Guenec. À la technique, Jenab Sangaré. Programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic. Et aux playlists, Valentine Chedebois. Côté Club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Après le journal, vous retrouverez Affaires Sensibles. Ce soir, Usinor 1977, bras de fer dans la sidérurgie lorraine.